chers auditeurs, chères auditrices, dans cette dernière leçon de l'année 2011, nous n'aurons pas à entrer dans les méandres de la chronologie attique, et encore, pas d'archonte à identifier, à déplacer, à dater. Je vois d'ici votre soulagement. Il est vrai qu'il a été souvent question d'eux tout au long de cette douzaine de leçons consacrées à l'histoire d'Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je voudrais pourtant que vous n'en gardiez pas un trop mauvais souvenir. Les discussions sur la date des archontes ont occupé une place importante, effectivement, jugée peut-être excessive, dans les efforts qu'après beaucoup d'autres, j'ai fait pour essayer de clarifier les choses. C'est un handicap, assurément, par rapport à une histoire où la séquence des événements serait sûrement établie et comme donnée d'avance. Mais cet inconvénient peut aussi être vu comme un avantage, dans la mesure où cela oblige l'historien à prendre ses responsabilités et à tenir pour provisoire le cadre chronologique qu'il reçoit de ses devanciers, et donc à oser parfois des rectifications pour peu qu'il puisse les justifier. Car la chronologie attique, ce n'est pas une brousse où chacun pourrait braconner à sa guise. C'est un terrain de chasse très surveillé, avec des règles assez strictes, mais où l'on est autorisé néanmoins à entrer, voire à tirer sur quelques volatiles. Qu'il y ait un élément ludique dans cette manie qu'ont les épigraphistes de faire bouger des pions sur un échiquier à 100 cases, une case pour chaque année d'un siècle donné, comment le contester? Mais c'est un jeu fascinant quand le déplacement d'un archonte permet d'inverser le rapport entre deux événements connus, de modifier le contexte historique d'un décret, d'un traité, bref, de faire bouger l'histoire alors que Dieu lui-même, en principe, ne peut rien changer à ce qui a été accompli par les hommes. C'est donc un espace de liberté, d'une certaine façon, on en a vu un bon exemple, me semble-t-il, avec la liste des 18 archontes gravés sur une stèle monumentale de l'Agora, un abaissement minime fait par autrui de la chronologie reçue m'a amené à reconsidérer les modalités de la libération d'Athènes en 229 et à présenter une hypothèse inédite sur les raisons qui purent inciter les Athéniens à exposer cette liste impressionnante dans l'hiver 212-211 seulement, à un moment clé de l'histoire de la Méditerranée gréco-romaine. Au-delà de ces enjeux événementiels, il y a une institution dont l'intérêt me semble bien souvent méconnu pour l'histoire même de la démocratie. Beaucoup de cités, en fait toutes les cités, ont eu des magistrats éponymes. L'usage a été constant jusqu'à l'époque impériale comprise, de donner un nom d'homme ou à défaut un nom de dieu à chaque année civile, laquelle ne correspond pas nécessairement à l'année saisonnière. Mais cet usage n'est nulle part aussi bien documenté qu'à Athènes. L'éponyme athénien a pu servir de référence même à l'étranger ou dans l'historiographie. Nulle part on a une série aussi bien fournie d'archontes s'étendant sur près d'un millénaire. Nulle part non plus on ne connaît mieux qu'à Athènes le mode de désignation et les charges de ce magistrat prestigieux. Or, et c'est ici qu'est la surprise pour les modernes, il s'agit d'un magistrat normalement tiré au sort, à peu près dépourvu de fonctions et de compétences sinon religieuses, et sauf précisément qu'on lui confère ce privilège immense pour un an de voir son nom apparaître sur tous les actes publics, puisqu'il est en quelque sorte l'incarnation de l'année. Donc, pour lui, pas de campagne électorale, pas de reddition de comptes, non plus en fait d'exercice. Le pire qui pouvait lui arriver, la mort mise à part, c'était d'être en charge quand une révolution survenait et quand il fallait tout recommencer à zéro. Cela arriva une fois au moins en 295, sans même obliger d'ailleurs l'archonte en place, Nicias, à démissionner. On lui accola seulement la précision « ustéroche », le Nicias venant en second. Bref, c'est un poste en or. Et je dois vous confesser que pour ma part, j'aurais bien aimé être archonte éponyme à Athènes. Et si l'on m'avait donné le choix de l'époque, j'aurais sans hésiter opté pour le 3e siècle avant Jésus-Christ. Car avant et après cette période, on ne mentionne pas souvent les archontes, leur succession bien établie, donnant guère lieu à discussion. Les archontes des années 300, 299 à 200 sont en revanche l'objet de beaucoup d'attention. On ne cesse de se disputer autour de leur position et de leur date. Or, en dehors des célébrités de l'histoire politique, littéraire ou artistique, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens dont on s'occupe encore avec passion, plus de 2 millénaires après leur mort. Alors qu'ils n'ont strictement rien fait pour mériter cette notoriété, sinon d'avoir eu la chance d'être désignés pour une année dans la suite des travaux et des jours de la plus belle cité qui fut jamais sous le soleil. Ces archontes du IIIe siècle, on les connaît aujourd'hui presque tous, et ils forment à eux seuls une espèce de club, pas tout à fait égalitaire cependant. En effet, si la plupart d'entre eux sont des inconnus, preuve donc et qu'il y a eu bel et bien désignation par le sort, quelques-uns ont été de grands personnages, ainsi Olympiodoros ou Euryclides, connus aussi par la littérature. Comment se fait-il alors que le sort les ait distingués? Manipulation dans l'urne? Non, ça n'est pas cela. C'est qu'à de rares moments du IIIe siècle, le régime démocratique a été sous contrôle royal, ainsi entre 295 et 287, et dans les années, disons, 250-230, d'où ces entorses au principe du tirage au sort. Ensuite, bien sûr, comme dans tout groupement, même égalitaire, il y a des noms plus illustres que d'autres. Tous sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, selon la formule connue. Mais c'est là le hasard qui en a décidé ainsi. Certains archontes ont eu la bonne fortune d'être cités dans les textes littéraires. Cela ne les a d'ailleurs pas empêchés nécessairement d'être, de subir quelques déconvenues. On a vu le cas d'un archonte Gorgias, chez le pseudo-Plutarque, qui pourrait en réalité n'être qu'une faute de copie dans les manuscrits et ne faire qu'un avec son prédécesseur Urias. Il y a ensuite les archontes, dont la notoriété tient à ce qu'ils sont liés à un événement majeur, mais dont la date est âprement discutée. Le cas emblématique, c'est évidemment Peitidemos, associé pour l'éternité au début de la guerre de Crémonides. Il y a les archontes qui sortent de l'ombre un beau jour, parce qu'on les déplace sans ménagement d'un demi-siècle. Ce fut le cas du dénommé Aristion, voici une dizaine d'années. Il a été tellement déplacé qu'il ne figure même plus sur le tableau. Il est allé vers le haut. Et puis, il y a les archontes pivots, si j'ose dire, comme Polyoctos ou comme ce Kidenor, à la mémoire duquel l'archéologue américain William Dinsmore avait dédié tout un livre, tant il s'était pris d'affection pour ce personnage discret qui était au centre de sa recherche. Enfin, de même qu'il y a un soldat inconnu, il y a au moins un archonte inconnu, mais dont l'incognito pourrait n'être que provisoire. On attend toujours, en effet, de savoir quel était le nom de l'archonte venant juste avant Héliodoros, tout au haut de la stèle, la fameuse stèle des 18 archontes, c'est-à-dire le nom de cet homme à qui les dieux avaient accordé l'immense privilège d'être le magistrat éponyme de l'année 230-229, ou mieux sans doute 229-8, au cours de laquelle Athènes avait recouvré l'Eleutheria, sa liberté. Après ces quelques réflexions d'ordre général, le moment est venu d'examiner un témoignage bien curieux, riche d'informations, encore qu'on l'aurait voulu plus précis sur la ville d'Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la description, assez haute en couleur, laissé par un certain Héracléides, qualifié de Crétikos, nom et qualificatif qui lui sont donnés par le seul auteur ancien qui ait été amené à le citer, un certain Apollonios, ça n'a pas d'importance. On peut voir éventuellement dans cet Héracléides, totalement inconnu par ailleurs, non pas tant peut-être un crétois, comme on dit parfois, en tout cas un crétois de souche, car alors il eût été dit Crète ou éventuellement crétailleuse, mais un homme ayant quelques liens avec la Crète, comme on qualifiait par exemple de mégarique les élèves du philosophe Stilpon de Mégare. Mais l'hypothèse la plus commune est que Crétikos n'est qu'une graphie tardive pour Critikos, cas de iotacisme, d'où le nom d'Héraclide le critique qu'on lui donne assez volontiers. L'œuvre qui subsiste en divers manuscrits, aucun n'est complet, est un opuscule mutilé en divers endroits qu'on avait cru pouvoir identifier avec le bios Hellados, la vie de la Grèce, du philosophe aristotélicien Dicéarque de Mécène, c'est-à-dire en l'occurrence Messine en Sicile. D'où l'appellation ancienne qu'on trouve encore parfois aujourd'hui de pseudo-Dicéarque donnée à l'auteur. Cette attribution, donc aujourd'hui repoussée unanimement, a laissé cependant des traces dans la mesure où elle explique peut-être que l'on ait cherché à dater l'œuvre le plus tôt possible dans le IIIe siècle, cet élève d'Aristote ayant dû mourir vers 280 avant Jésus-Christ au plus tard. En réalité, cette date n'a pas de signification, on n'a plus de signification. Plutôt, si elle en a une, c'est bien plutôt comme terminus post-quem que comme terminus ante-quem. Autrement dit, l'auteur a dû écrire après et non point avant les années 280. Cela ressort déjà des citations qu'il est amené à faire tout au long de son opuscule. Car il faut bien voir que notre Héracléides n'est pas un voyageur sans bagage, je veux dire sans bagage littéraire. Et pour chaque ville, il a un petit couplet, emprunté le plus souvent à tel poète de la Comédie nouvelle, Xénon, Lysippos, Philiscos, Laon, dont les plus récents datent, disons, du début ou même du milieu du IIIe siècle. Ainsi, à propos de Platée, il précise exceptionnellement que l'auteur cité est Poseidipos ô ton commodion poietes, le poète des comédies. Ce qui paraît bien signifier, parce que c'est la seule fois qu'il fait cette précision, qu'il a voulu mettre son lecteur en garde contre une confusion possible avec un autre Poseidipos, Poseidon de Pella, célèbre épigrammatiste qu'on connaît aujourd'hui mieux par un nouveau papyrus. Or, ce Poseidip n'avait acquis sa réputation justement que vers 270-260. La part de la littérature est donc importante, il ne faut jamais l'oublier, chez Héracléides, et elle l'est surtout, bien entendu, pour une cité aussi souvent mentionnée et chantée qu'Athènes. Mais aucune datation, tant soit peu précise, ne fait aujourd'hui l'unanimité parmi les historiens d'Athènes, spécialistes de l'époque hellénistique, qui n'ont jamais manqué, néanmoins, de tirer parti de la description d'Héracléides. Tandis que Ferguson, il y a un siècle exactement, pensait pouvoir avancer une date très précise, dont on verra qu'elle n'est pas entièrement fausse, entre 206 et 203, pour la raison que ce fut, selon lui en tout cas, la seule période où la Grèce aurait connu l'état de paix dont paraît témoigner le tableau d'Héracléides. Christian Habich, de son côté, se montrait donc naguère, en tout cas, infiniment plus circonspect, déclarant même ne voir aucun moyen de préciser la date à l'intérieur du IIIe siècle, ce qui est déjà à peu près la position du philologue autrichien Friedrich Pfister, qui est l'auteur de la seule édition critique de cet opuscule sous le titre « Die Reisebilder des Héracléides » paru en 1951. Une édition française de l'œuvre est prévue dans la collection Budé en tant que tome 6 des géographes grecs par les soins de M. Didier Marcotte. Ce bon connaisseur de la géographie antique a déjà pu faire connaître son opinion sur l'opuscule d'Héracléides en éditant en 1990 le poème géographique de Dionysios, fils de Callifone. Car cette œuvre périégétique aussi, concernant la Grèce propre, a été transmise exactement par les mêmes manuscrits byzantin. Elle aurait pu être intéressante aussi pour Athènes si la partie du poème où ce Dionysios, après avoir traité de la Béotie et de la Mégaride, en venait aux Cyclades et à Athènes, si cette partie-là n'avait pas été malencontreusement supprimée par un abréviateur byzantin qui l'a remplacée par le texte en prose d'Héracléides. Ces deux œuvres sont donc étroitement soudées par leur transmission et il est certain que le prosateur Héracléides est sensiblement plus ancien que le versificateur, on n'ose pas parler de poète, le versificateur Dionysios. Mais Marcotte ne s'est pas aventuré jusqu'ici à préciser combien de décennies pouvaient les séparer. Il nous faut donc essayer de dater par nous-mêmes l'œuvre d'Héracléides, en dépit du scepticisme, en partie légitime, affiché naguère par Habige dans sa Athènes hellénistique, car les arguments ont été, il est vrai, assez contradictoires. Notons cependant qu'une tendance s'est dessinée pour mettre cette description après plutôt qu'avant, la libération d'Athènes en 229. Telle est la position, notamment, de M. Éric Perrin dans un article de 1994 de la Revue des études grecques, spécialement consacré à ce au morceau athénien, sous le titre Héracléides le Crétois, comme il désigne, à Athènes, avec un sous-titre « Les plaisirs du tourisme culturel ». L'hésitation des chercheurs est d'emblée révélatrice d'au moins une chose, c'est que notre Héracléides ne s'est pas soucié beaucoup de fournir des indications historiques explicites, comme pourrait être la mention d'un roi, celle d'un événement ou d'un personnage identifiable. Car il s'agit pour lui de faire une espèce de portrait, non pas nécessairement idéalisé, il s'en vaut même de beaucoup en plus d'un cas, mais quelque peu intemporel. Ce n'est toutefois pas une raison suffisante pour renoncer à essayer de cerner la date au plus près, de même qu'il est parfois nécessaire de connaître l'âge exact d'une belle dame, même quand elle fait beaucoup d'efforts pour le dissimuler. Mais, première question, qu'a voulu faire au juste Héracléides ? Décrire Athènes et l'Attique, comme le ferait Pausanias, ou le fera Pausanias bien des siècles plus tard, dans le cadre de sa vague périégèse, justement, de l'Hélade. Non, car notre auteur, d'abord, utilise le mot Hélade, dans le sens restreint de terre habitée par les Hellènes, les Grecs de la vieille Grèce, à l'exclusion même du Péloponnèse, comme aussi des régions occidentales, Étolie, Acarnanie, etc. Son ouvrage devait commencer avec l'Isthme, disons, avec au mieux la Mégaride, en tout cas Éleusis. Cela nous prive d'ailleurs d'une description de Corinthe qui aurait fourni nécessairement quelques indices chronologiques tant le destin de cette ville et de sa citadelle, vous en souvenez, fut mouvementé dans la seconde moitié du IIIe siècle. À défaut, Héracléides a fait mention des deux autres villes qui passaient, selon le mot fameux du roi Philippe V, relayé par Polybe, pour les entraves de la Grèce, ces places fortes grâce auxquelles la monarchie macédonienne exerçait à moindre coût sa domination sur toute la péninsule hellénique, c'est-à-dire les villes de Chalcis en Eubée et de Démétrias, là au fond du golfe de Volo, aujourd'hui du golfe Pagasétique. Certes, la description de cette dernière ville, de Démétrias, se trouvait dans une partie de l'œuvre qui a malencontreusement disparu, juste avant une belle évocation qui, elle, est conservée, du Mont Pélion, qui domine la péninsule, la presqu'île de Magnésie, là, fermant le golfe. Évocation que Héracléides achève en disant « Voilà donc ce qu'est le Pélion, ton men un Pélion, kai Demetriada sum bebeke einai, toyoten einai ». Or, cette mention est très importante puisque c'est seulement vers 294, peut-être seulement 287, que la vieille ville de Pagasai a pris le nom de Démétrias, quand Démétrios Polyeucte VII décida de faire de ce port de la Thessalie méridionale une espèce de débouché général sur la mer Égée. Il est par conséquent certain que l'œuvre d'Héracléides est postérieure, et peut-être beaucoup, à ce tournant historique. C'est dans cette perspective qu'il faut considérer la description extrêmement précise qu'il donne de Chalcis, la ville située, on peut le revoir sur cette carte, située donc dans, sur le Rip, et de prime abord la seule qu'il ait visitée, une autre carte, oui, la seule qu'il ait visitée en Eubée. Et cette ville, il l'a gagnée non point en partant par mer, en partant du Pirée, comme il aurait pu le faire, mais par terre ferme, venant de Thèbes, l'itinéraire indiqué ici, ce n'est pas le sien, venant de Thèbes, avec un petit détour par la cité d'Anthédon, ici, sur le golfe euboïque septentrional, qui est juste en face de l'Eubée, dont il a laissé d'ailleurs une évocation extrêmement précise et attachante. Comme l'a bien vu Pfister, ce détour est instructif pour l'itinéraire suivi par Héracléides après sa visite de Chalcis. Le voyageur n'est certainement pas revenu en Béotie, car pour toutes les autres villes de ce pays, il s'est contenté de les nommer, au moins en partie, dans une espèce de catalogue, vers la fin de son œuvre, qui est très sommaire, avec l'indication d'une vertu, ou plutôt d'un vice, définissant les habitants de chacune d'elles, avec ce goût pour la caractérisation morale qui est bien dans l'esprit du temps. Il n'y a d'ailleurs pas le moindre indice qu'il ait parcouru la région du lac Copaïs en direction, soit de Delphes, soit des Latées pour se rendre vers les vers le passage des Thermopyles. Tout indique qu'Héracléides, en fait, est parti vers le nord de l'Eubée. Il est parti vers le nord de l'Eubée, voilà la position de Chalcis, on y reviendra peut-être. Depuis Chalcis, il part non pas du tout. Il n'est pas systématique, il n'est pas allé vers le sud, il ne mentionne ni Érétrie, ni Caristanche, et il faut bien voir que c'est tout à fait à tort qu'on a parfois voulu tirer argument du fait de l'absence de la ville importante d'Érétrie dans cet opuscule d'Héracléides pour défendre l'idée que, dès après la prise de la ville dans la guerre de Crémonides, cette cité aurait sombré dans la médiocrité au point de ne plus même mériter une visite. Vous voyez, ce genre d'argument qui est extrêmement sujet à caution. Plus intéressant est l'itinéraire même suivi par Héracléides de Chalcis. Il est parti en direction, soit par terre, soit par mer, de la pointe nord, vers le port de Distier, le grand port marchand Distier-Oréos, qui était lui-même en relation directe avec la cité de Démétrias au sud de la Thessalie. Ces deux cités avaient beaucoup de points en commun. Cet itinéraire était en fait celui des rois et des armées macédoniennes, surtout lorsque la côte était occupée, tenue par les Étoliens qui empêchaient le passage par les Thermopyles. Donc tout se passe comme si Héracléides avait voulu éviter tout contact avec les Étoliens, avec les Achéens aussi, puisqu'il élimine le Péloponnèse. Et de fait, la description d'Istier devait venir juste avant celle de Démétrias. Et c'est la raison pour laquelle aussi elle est perdue l'autre. Il aurait été utile, certes, de connaître l'avis d'Héracléides sur la cité des Istiens dans ses rapports avec la Macédoine. À défaut, on sait ce qu'il pensait de celle des Chalcidiens, et c'est un des passages les plus intéressants. La position de Chalcis le RIP est brossé avec beaucoup de talent. Le voyageur fait voir une ville aménagée de manière très fonctionnelle, dirions-nous aujourd'hui, tout entière tournée vers le grand négoce. Elle est remarquablement bien pourvue de bâtiments publics, écrit-il. On peut voir le texte ici. Toute cette partie sur l'aménagement de l'agora avec toutes sortes de commodités, des gymnases, des portiques, des sanctuaires, des tableaux, des statues. L'agora est très bien placée, dit-il, l'agora Caimene, elle est an hyper bletos, incomparablement bien située, dans une position qui attire vers elle les marchands. La terre d'alentour est riche, poissonneuse, un pays de cocagne en fait. Il y a tout de même une ombre au tableau, les Chalcidiens ne sont pas libres. Et cela depuis longtemps, d'où le Iontès, Pollune aidait Cronon, dit-il, vers la fin de sa description. Et d'où le Iontès, gar Pollune aidait Cronon. Mais ils ne sont pas trop affectés, ils se portent cela avec aisance et finalement en tirent parti. En tout cas, cela ne nuit en rien ni à leur prospérité, ni à leur activité culturelle. Cette description est donc extrêmement remarquable. Il paraît clair que l'on est là dans une phase déjà assez avancée du IIIe siècle, loin des vicissitudes que la ville de Chalcis avait pu subir dans les années 280 et plus probablement 270, à l'époque du roi Pyrrhus, quand Chalcis, échappant pour un temps à la tutelle de la Macédonienne, avait adhéré à la Confédération béotienne. Visiblement, tout cela est oublié, comme a été tournée aussi la page plutôt sombre de la révolte du roi de Leubée, d'Alexandre, fils de Cratère, dans les années 251 et suivantes. On ne saurait donc pas davantage mettre cette évocation d'une ville, certes privée de liberté, ça c'est un point tout à fait décisif, mais jouissant de la paix et de la sécurité après le début de la seconde guerre de Macédoine, vers 200 et jusqu'en 191, quand Chalcis fut alors souvent la cible des Romains et des Étoliens. Elle était une des positions clés du roi Philippe V. Et en 200, on sait que la ville fut gravement touchée par, vraiment, dans son centre commercial, par une attaque. Et la ville, dit Tite-Live, livre 31, était à demi détruite, semi-ruta, acfumans. Et donc, un coup très dur en 200. L'étau chronologique pour nous donc se resserre considérablement. On est après 245 et avant 200. Et dans sa thèse sur Chalcis en 1979, notre collègue et ami Olivier Picard faisait observer à propos d'Héraclaïdès que, je cite, le texte est certainement antérieur à la libération d'Athènes en 229. Mais on a vu que cette certitude, précisément, est loin d'être acquise chez les spécialistes des choses athéniennes. En fait, l'indice qu'on croyait avoir en sa faveur est totalement illusoire, car le mot « douleia », cette fois donc appliqué à Athènes, d'une part, il a été à ce point suspecté que Pfister a voulu le remplacer par le terme de « boulimias », conjecture d'ailleurs très, très, très audacieuse, et que de toute façon, on le voit dans le texte dont vous avez la traduction, il concerne la servitude, cette douleia, c'est la servitude de l'estomac, des visiteurs qui, à Athènes, peinent à trouver, à se nourrir. Ça n'a donc rien à voir, cette douleia, avec le statut politique de la cité d'Athènes. En fin de compte, ce sont donc les indices fournis par la description de Chalcis qui invitent à dater le voyage dans le dernier tiers du IIIe siècle, disons vers 230-210. Mais avant de voir si cette induction se confirme à la lecture du morceau athénien, il convient d'aller au-devant d'une objection que d'aucuns ont tirée de la description de Thèbes, grande cité de Béotie. Et la façon dont Héraclaïdès évoque cette cette cité béotienne est d'ailleurs riche d'enseignements sur ses sources et sa méthode. On constate d'abord qu'il a une certaine connaissance de l'histoire de la cité. Il mentionne des historiae. Il le dit ici, aus fascin ai historiae, c'est qu'il a consulté, et il lui a enseigné au moins une chose, c'est que cette ville illustre avait été détruite 3 fois. Mais il ne précise pas quand. En fait, les 2 premières destructions remontaient à une époque mythique, du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Seule la 3e, effectuée, chose très connue, par Alexandre en 335, nous intéresse ici. Et ce n'est pas avant 315 que les Thébains ont pu rentrer massivement chez eux grâce au roi Cassandre. Donc, Héracléides est passé après cette date, car la ville qu'il visite n'est pas du tout un champ de ruines. Au contraire, il montre que cette ville est entourée d'une très vaste enceinte circulaire. Il donne même une indication qui semble exagérée, offre un plan structuré, moderne en quelque sorte, grâce, si l'on peut dire, justement à la destruction qui a obligé les Thébains à remodeler leur ville. Il le dit, elle est ancienne, archaïamène. Où ça ? Elle est illustre, elle est ancienne. Mais elle a été refaite, kainos de erumoto momene, complètement, son plan a été complètement retracé. Elle dispose d'une eau en abondance, c'est la ville de Grèce qui possède le plus grand nombre de jardins. Kepeimata ekousa pleistaton en te, elle a dit poléon, qui est quand même un beau complément et qui contraste totalement avec Athènes elle-même, dont il a dit dans le passage que vous avez sous les yeux qu'elle était sèche et aride et en plus bâtie à l'ancienne, on va le voir. Et puis les femmes thébaines valent le détour par leur taille, leur démarche, leur allure, ce sont les plus élégantes. Les plus élégantes de Grèce. Œil kémonestatai, tekai œil prépestatai. C'est tout de même un très beau compliment. Bref, une ville des plus agréables à vivre. Et pourtant, ajoute Héraclides, c'est l'enfer. Les habitants sont batailleurs, arrogants, indifférents. Sans égard aussi pour les étrangers et d'ailleurs aussi pour leurs propres concitoyens. Vous voyez, il y a diaphoroi, prospantaxenon. Le pauvre Héraclides a dû y faire quelques mauvaises expériences personnelles et il n'y aurait en principe pas plus à s'en émouvoir que de la subjective impression gardée par je ne sais quel touriste, disons, américain qui s'écriant à son retour de France, à Paris, c'est une fête, ces spectacles, ces petites femmes, mais les Parisiens sont insupportables. Le problème, c'est que notre Héraclides, lui, va beaucoup plus loin dans la critique. Il prétend que la violence règne à Thèbes, que l'on y est assassiné dès que l'on fait mine de vouloir intenter une action judiciaire, que de fait, chez eux, les procès traînent pendant au moins 30 ans avant d'être d'aboutir. Il le dit clairement, « Aïdikai, vous voyez, par autois, dit eton, toulachiton, eisagontai, triaconta. » Cette observation a été rapprochée depuis toujours du fameux passage de Polybe, plein de rancœur, comme souvent, à l'égard des Béotiens, où l'historien entend prouver la pitoyable situation sociopolitique de la Béotie en disant que la justice n'y est plus rendue depuis 25 ans. Les deux indications, c'est livre 26 chez Polybe, les deux indications semblent de prime abord se recouper si exactement que l'on est tenté de déceler l'allusion à une seule et même époque. C'est ce qu'a fait Michel Feyel dans sa belle thèse de 1942 sur Polybe et l'histoire de Béotie, et comme un autre passage de l'historien grec permet de situer approximativement cette période d'interruption de la justice à Thèbes en particulier, entre 212 début de la guerre, la première guerre de Macédoine, et 188, paix d'Apamée, il faut conclure, estimé Feyel, qu'Héracléides n'a écrit son ouvrage qu'après 188, et même, disons, seulement vers 180. Mais cette induction est certainement erronée. En effet, comme l'a vu Pfister dans son commentaire de 1951, en ignorant du reste superbement l'étude de l'épigraphiste français, l'indication d'Héracléides met en relief une habitude, en fait, invétérée des Thébains, non pas une situation historique déterminée. À Thèbes, il faut 30 ans pour faire aboutir un procès. C'est ainsi depuis toujours. Tout au plus, peut-on penser que cette tendance devenait de plus en plus évidente et dommageable vers la fin du IIIe siècle. C'est donc une raison supplémentaire pour placer l'œuvre vers 210 seulement. Mais ce ne saurait être un argument pour passer par-dessus l'année 201 ou 200, qui pour Chalcis, on l'a vu, est une barrière, une barre infranchissable. Qu'en est-il maintenant d'Athènes, vers laquelle il est temps peut-être de se diriger ? Mais tous ces détours n'auront pas été totalement inutiles, je pense, en nous permettant de mieux saisir la nature et l'esprit des notes laissées par Héracléides. D'une certaine façon, le tableau qu'il fait d'Athènes pourrait décevoir le lecteur historien et archéologue, car on ne trouve pas grand-chose chez Héracléides qui ressemble à une véritable périégèse, peut-être parce que délibérément, il n'a pas voulu refaire pour cette ville, alors déjà très visitée, quelque chose qui existait, qui était à disposition, un guide complet ou partiel. On connaît l'existence dès le IIIe siècle d'un ouvrage concernant, par exemple, les seuls monuments funéraires d'Athènes, Périmnématone, dans l'œuvre d'un certain Diodoros, donc il n'est pas Diodore de Sicile, lequel, au début du IIIe siècle, écrivit aussi un traité sur les dèmes attiques. Plus tard, un célèbre périégète, Polémon d'Ilion, rédigeait un ouvrage de référence sur les monuments de l'Acropole. Héracléides, visiblement, n'a pas voulu faire un guide d'Athènes, de sorte qu'on est en peine de reconstituer son itinéraire dans la ville, s'il en a eu un. S'il touche, sont, pour ainsi dire, impressionnistes. Peu de grands édifices sont expressément mentionnés, en dehors du, en dehors du théâtre, qui est là sur l'autre versant de l'Acropole. Un ensemble qui, note-t-il, fait une forte impression à ceux qui le contemplent. Le texte est dans votre dossier. « Mégalène cataplexine ». Poiei tois theoroumenois. Mais, disant cela aussi de l'ensemble de l'Acropole, mais il ne dit rien, par exemple, du temple même d'Athéna, sauf à préciser que c'est le dénommé Parthénon. Hein, le dénommé Parthénon. Ocaloumenos Parthénon. Cette appellation, qui était la plus courante de cette époque, mais n'était pas l'appellation officielle, celle des inventaires qui distinguent les parties de l'édifice. Et on voit que dès le IIIe siècle, c'est le Parthénon qui l'a emporté, c'est la pièce fermée de l'arrière du temple qui est devenue l'image de tout le temple. On aurait été très curieux de savoir quand même par lui s'il s'était donné la peine de monter sur l'Acropole et de regarder de loin, sans doute, du pronaos à l'intérieur du temple, comment se présentait la statue chryséléphantine de Phidias, qui un demi-siècle plus tôt, on s'en souvient peut-être, avait été dévêtue par le tyran Lacarès, c'est-à-dire dépouillée de ses éléments d'or qui constituaient le divin Péplos. Mais Héracléides, encore une fois, à supposer qu'il ait fait ce déplacement, probablement, n'a pas eu cette préoccupation d'antiquaire. Deux indications topographiques, cependant, pourraient avoir leur intérêt pour situer chronologiquement son passage à Athènes. C'est d'abord la mention qu'il fait de l'Olympieion, le grand temple de Zeus, il le dit, donc le théatron d'abord, Olympieion, Olympion selon cette graphie, temple situé au pied sud de l'Acropole, un édifice inachevé, Emitelaesh, dont le plan de construction ne laisse pas, tout de même, de faire impression. Le mot, ce mot cataplexine, et impression par son plan, le dessin de son plan, tes oikodomias hypographé, c'est assez technique. Et qui, dit-il, serait très beau, ou le plus beau du monde, genomenon dan beltiston, si seulement il avait été achevé eiper sun sudetelestae, sauf erreur. On a vu dans cette indication un trait de malveillance. Cela ferait partie des quelques persiflages écrit Éric Perrin dans son récent article, dont Héracléides aurait parsemé son texte à l'adresse des Athéniens. J'avoue ne rien déceler de tel dans cette observation purement factuelle, car les textes allégués en faveur de l'hypothèse d'une allusion perfide ne portent pas vraiment. Pourquoi diable notre auteur aurait-il fait reproche aux Athéniens de son temps, d'un état d'inachèvement qui durait en fait depuis des siècles? L'édifice était immense. Périclès lui-même n'ayant pas pu ou voulu mettre un terme à cette construction entreprise déjà par les Pisistratides. Si l'observation d'Héracléides est intéressante, c'est pour une toute autre raison. On sait en effet par l'architecte Vitruve, livre 7, chapitre 15, que le roi de Syrie, Antiochos IV, Épiphane, lié de près à la cité d'Athènes, décida de prendre à sa charge l'achèvement du temple géant, et cela dès 176 avant Jésus-Christ, travaux qui furent interrompus à leur tour 10 ans plus tard par la mort de ce souverain. Il paraît donc clair que, même si d'aventure Héracléides n'avait rédigé ses notes de voyage qu'au début du IIe siècle, thèse Feyel, ce que personnellement je ne crois pas, ce serait en tout cas avant cette entreprise avortée des années 170. Un autre terminus chronologique allant dans le même sens pourrait alors éventuellement être établi. C'est que notre voyageur fait mention à Athènes de 3 gymnases. De 3 gymnases, non, ce n'est pas ce texte-ci, voilà, gymnasia trian, académie, lycée et celui du Kinosarge, lequel se trouvait d'ailleurs dans la région de l'Olympieion. Héracléides ne connaît donc pas encore le gymnase de Ptolémée, le Ptolémaïon. S'il ne s'agit pas d'une simple omission, ce serait un indice fort intéressant pour placer son passage dans les dernières années du IIIe siècle. En effet, quoique décidé, on s'en souvient, sans doute dès après l'institution du culte en l'honneur de Ptolémée III, c'est-à-dire en 224, l'édification du gymnase, qui portait son nom, dut prendre bien des années, en réalité. Et la statue qui s'y trouvait du philosophe Chrysippe de Sol, d'après Pausanias, n'a sans doute été érigée qu'après la mort de ce penseur, donc après 204. Bref, tout paraît indiquer que c'est bien une Athènes fraîchement libérée de la tutelle macédonienne qu'Héracléides a visité dans les dernières années du IIIe siècle. Si l'on était encore avant 229, on s'étonnerait vraiment que le voyageur ait pu, par exemple, vanter son déplacement depuis Athènes vers Oropos par Aphidna, avec des auberges, dit-il, bien pourvues, Aphtona, offrant toutes les commodités aux voyageurs, car ce secteur de l'Attique, proche de la forteresse de Ramnonte, fut passablement touché, on s'en souvient, par la guerre démétriaque, justement dans les années 230, sans parler des incursions de pirates aussi à une époque légèrement antérieure, au témoignage de plusieurs décrets de Ramnonte. Les fouilles menées à Ramnonte par Vassilis Petrakos permettent d'ailleurs de mieux comprendre ce qu'Héracléides a voulu dire en relevant un grand contraste au point de vue de l'architecture entre le centre monumental d'Athènes, évidemment, je ne sais pas si j'ai le centre monumental d'Athènes avec ses grands ensembles et les zones d'habitat privées à la périphérie de la ville. Mais néanmoins, à l'intérieur du circuit défensif, comme on le voit sur ici, on l'a reconstitué, naturellement, mais un réseau très dense d'un habitat à l'intérieur de l'enceinte, c'est celui que le voyageur peut apercevoir en arrivant. Depuis Eleusis, la ville lui apparaît comme un enchevêtrement de rues et de petites maisons, la plupart inconfortables, dépourvues en tout cas de luxe. Ce ne sont pas du tout des oikiai de grand luxe, au point que ce voyageur pourrait, de prime abord, dit-il, douter qu'il est entré véritablement dans la célèbre Athènes, en raison de leur ancienneté, diatène archéothéta. Ces quartiers d'habitat ne témoignaient d'aucun effort pour organiser l'espace, pour aménager des places, à la différence de ce qu'on pouvait précisément voir dans des villes neuves, comme Démétrias, ou des villes qui avaient été complètement réaménagées, comme Thèbes. On disait volontiers de ces villes aux rues étroites et tortueuses qu'elles avaient eu pour architecte un âne batté. On suivait l'itinéraire d'un âne qui se promenait, qui allait au plus droit. Or, c'est tout à fait l'impression que donne aujourd'hui, grâce aux fouilles, le site de Ramnante, qui donne la seule bourgade de l'Attique dont les ruines soient aussi bien préservées et dégagées. Notamment ce quartier ici, la porte sud, d'autres. La compote, c'est un peu différent, mais ici en particulier, c'est, je pense, une très bonne image. Et il n'est donc pas du tout certain que les conditions de vie des Athéniens de la ville aient été très différentes, pour ce qui est en tout cas des commodités, notamment de celles de leurs compatriotes vivant dans les villages de la campagne attique. Héraclides, lui-même, paraît de prime abord opposé nettement citadins et gens de la campagne, dans leur manière d'être, dans leur caractère, dans leur conduite, en particulier à l'égard des étrangers. Le traducteur français rend ainsi le début du paragraphe 4. Tôn, donc, deinoikun tôn, oimen auton attikoi, oi datenaioi. Oimen attikoi, etc., oi datenaioi, autre chose. Parmi les habitants, dit-il, il faut distinguer entre les gens de l'Attique et les Athéniens. Les gens de l'Attique sont extrêmement cancaniers, faux et prompts à calomnier, ainsi qu'à dénoncer la manière de vivre des étrangers. Les Athéniens, par contre, sont généreux, simples, naturellement attentionnés envers leurs amis. Donc, contraste total. La question qui se pose, ce n'est pas tant de savoir si cette opposition est justifié que de se demander si la traduction même du terme attikoi par gens de la campagne attique est correcte, bien qu'elle soit largement répandue. Pour ce passage en particulier, c'est aussi, je reconnais, l'interprétation de Habicht et de Pfister, tandis que Ferguson était apparemment d'une autre opinion. Certes, il pouvait arriver qu'on opposa ainsi le citadin et l'homme de la campagne dans la littérature, notamment dans la comédie, et déjà chez Aristophane, et davantage chez Ménandre, les représentants de la comédie nouvelle. Mais, normalement, ce que l'on mettait en évidence, c'était bien plutôt, je parle d'Athènes ici, les caractéristiques propres à chacun des dèmes, sans qu'on fût le fait que l'Eudème était situé en ville ou aux abords du Pirée ou sur la côte ou à l'intérieur jusqu'aux frontières. Les Acarniens étaient ceux-ci, réputés pour leur un peu obtus et gloutons. Les gens d'Axonée étaient grands amateurs de poissons et prompts à l'amour des garçons, etc. Donc, on oppose les dèmes. L'opposition faite par Héraclides aurait donc de quoi surprendre, et pour trois raisons au moins. C'est premièrement que la limite entre la ville et la campagne, si on donne une carte de l'Attique, oui, entre la ville et la campagne, entre Astu et Cora, n'est pas du tout nette. Il y a beaucoup de dèmes qui entourent la ville même. Il y a les ports du Pirée et du Phalère avec leur population cosmopolite qui n'a rien évidemment de paysanne. Il y a Eleusis avec son grand sanctuaire et dirigé par les familles sacerdotales athéniennes. Ça fait des mystères où tous les Athéniens se rendent au moins une fois l'an. Est-on là à la ville ou à la campagne ? D'autre part, des études récentes ont montré que si dans Athènes hellénistique, le mariage reste, pour employer un mot fort pédant, endogamique sur le plan civique, c'est-à-dire, autrement dit, les Athéniens se marient entre eux, non pas le plus souvent, plutôt rarement, avec des étrangers ou des étrangères. En revanche, contrairement à une idée reçue, le mariage est nettement exogamique, orienté vers l'extérieur, sur le plan familial, c'est-à-dire que les chefs de famille... les curiaux ne cherchent pas du tout à marier leur fille, sœur ou nièce au sein de la famille. Ils cherchent bien plutôt à les marier à l'extérieur, même dans d'autres dèmes, qui le prouvent en l'absence évidemment de registre d'état civil. Ce sont les épitaphes, j'en en montre qu'une, les épitaphes où, sur une seule pierre, on voit que par des relations de mariage, plusieurs démotiques sont représentées. Il y a donc une large ouverture au sein de l'Attique. Et on peut dire, très généralement, un grand brassage. C'est ce qui ressort, en tout cas, de la belle étude de mesdames Anne-Marie Vérillac et Claude Vial sur le mariage grec. Moins de 20% des mariages étaient familialement endogamiques, restreints. La plupart sont largement ouverts. Il y a un grand brassage entre les dèmes et nécessairement, donc, entre la ville et la campagne. Enfin, surtout, il y a une seule communauté politique dans cette Attique, qui participent tous à l'Assemblée du peuple, au démos, au Athénaïon, au conseil, à la boulet. Ce sont des représentants de tous les dèmes qui siègent presque quotidiennement, de même que dans les tribunaux. Héraclès le critique ne paraît ignorer, mais enfin il ne pouvait ignorer néanmoins cette réalité politique, même s'il a jugé inutile d'évoquer le fonctionnement des institutions parce que, pour lui, cela peut-être allait de soi dans une cité démocratique. Il est certain, néanmoins, qu'en gommant tout cela de son tableau, il donne de la vie des Athéniens une image assez trompeuse pour nous autres modernes. À le lire, on croirait aisément que l'Athénien vivait dans la fête perpétuelle, qu'il ne sortait à un spectacle que pour aller banqueter, alors qu'en réalité, s'il allait au théâtre, c'était au moins une fois sur deux pour assister à une assemblée du peuple, et s'il participait à un banquet public, c'était une distribution de viande, créolomia, c'était dans le cadre d'un sacrifice aux dieux, accompli lors d'une grande fête, comme au Panathénée chaque année. C'était donc pas, les Athéniens n'étaient pas seulement d'aimables citadins cherchant à meubler leurs loisirs. Bref, l'opposition. Que ferait ici Héraclides entre gens de la ville et gens de la campagne surprend. Elle est même, à certains égards, choquante. En fait, elle est fausse. Je veux dire que la traduction me semble incorrecte. Il ne paraît pas possible, en effet, de traduire Attikoi par les gens de l'Attique. Attikos est un adjectif qui signifie « appartenant aux Athéniens », un tétique, comme on dit. L'Attikais, c'est le pays des Athéniens, aussi la forme féminine, Attis, d'où le mot savant attidographe, ceux qui écrivent sur les choses de l'Attique, d'Athènes. Attikoi ne saurait donc signifier les habitants de la terre attique, Attikais ou Attis, puisque cela impliquerait que le même adjectif pouvait désigner à la fois le pays et ses habitants. Non, Attikos ne peut s'appliquer qu'à des gens qui, sans être citoyens athéniens, ont un lien fort avec cette cité, la ville et le territoire. Ils vivent comme résidents. Bref, ils sont ce qu'on y appelle, au sens strict, des métèques, des métoïkoi, ceux qui vivent aux côtés des citoyens, selon l'étymologie la plus généralement, pas la seule, mais la plus généralement acceptée. Un Attikos, c'est en quelque sorte un hôte de la cité d'Athènes, le modeste le plus souvent, illustre parfois, hein, Pomponius Atticus, le très cher ami de Cicéron, ou Hérode Atticus, le milliardaire de l'époque des Antonins. Donc, chez Héracléides, peint l'ombre d'une opposition, à mon avis, entre citadins et campagnards. Les Athéniens ne forment pour lui, comme pour tous les auteurs, qu'un seul peuple, quel que soit le domicile de chacun des membres qui composent cette communauté civique. Ce qu'il a voulu indiquer, à tort ou à raison, c'est que ces étrangers résidents, qui le plus souvent étaient de conditions modestes, mais qui pouvaient aussi être redoutables quand ils étaient, par exemple, banquiers, hein, comme le célèbre Pasion de l'époque de Démosthène, ou logographe, c'est-à-dire, pour faire simple, avocat, comme le fut jadis le célèbre Lysias, ce sont ces étrangers résidents qui sont le moins aimables ou les plus redoutables pour les simples xénoï, les négociants de passage, entre guillemets, les touristes. Et de fait, Héracléides dit explicitement que ce sont les logographoi qui harcèlent les riches étrangers de passage, les diatrécousines, je ne sais pas si vous avez le texte de toute façon, tines logographoi, qui s'en prennent à ceux des étrangers qui sont de passage, par épidémuntas. Et cela en dépit des efforts que fait la cité pour réfréner leur ardeur, un zèle intempestif et intéressé par des amendes. Ça, c'est Héracléides qui le dit, et sur ce point, M. Perrin a parfaitement bien compris la chose. L'autre risque pour le touriste à Athènes, c'est bien sûr de voir sa bourse être considérablement allégée par la recherche du plaisir. Les courtisanes de haut et de moyen vol y sont fort nombreuses. Il y a beaucoup d'étrangères, certainement parmi elles. Héracléides ne le dit pas, hein, mais on le voit, on peut le constater déjà à travers les discours judiciaires du IVe siècle. Bref, Athènes offre toujours aux voyageurs, en cette fin du IIIe siècle, d'intenses émotions de diverses natures, des plus intellectuelles aux plus sensuelles ou plus festives, non pas seulement parce que la ville offre maintes commodités, mais parce qu'elle permet d'y côtoyer, dans les spectacles, le public le plus fin, le plus critique, le plus moqueur du monde. Il est vrai qu'on risque d'y mourir de faim, les produits venant de la campagne étant certes excellents, Héracléides en fait l'éloge, mais peu abondants. Et l'observation nous rappelle que cette Attique n'a effectivement jamais été un grand producteur de denrées agricoles, une terre aride, propice cependant aux plantations d'arbres, comme le notait déjà Thucydide. Mais, et qui est obligé alors à l'importation fréquente, régulière de céréales. Mais qu'à cela ne tienne, il suffit de songer, dit Héraclès, à emporter avec soi quelques provisions de route, ephodia. Ça, c'est un peu de malice, là, hein, cette observation, assurément. Et notre auteur de mettre un terme par une boutade à sa description très largement positive en citant un poète pratiquement inconnu de nous, Lysippos, « Si tu n'as pas vu Athènes, tu es une souche, hein, stelekos. Et si tu l'as vu et ne l'as pas apprécié, tu es un âne, onos. » Le reste à l'avenant. Concluons. Malgré son caractère volontairement général et quelque peu hors du temps, l'opuscule d'Héracléides est ancré, croyons-nous, dans une époque fort précise, disons les alentours de l'année 210 avant Jésus-Christ, juste avant les premières interventions de Rome dans les affaires helléniques. Le pays décrit, pas seulement Athènes, mais le pays décrit par cet auteur est encore un monde où les Grecs sont strictement entre eux. Si la Béotie connaît déjà de graves problèmes sociaux, à Thèbes notamment, on l'a vu, la justice ne fonctionne plus correctement. La cité de Chalcis vit en revanche ces dernières années de grande prospérité commerciale, sous la libérale, disons, tutelle des rois de Macédoine. Athènes, elle, est depuis 20 ans déjà une cité libre. Elle est pour beaucoup de Grecs un havre de tranquillité et de détente. Elle vit certes dans un environnement dangereux, mais sa diplomatie, sinon toujours son courage, lui donne les moyens de conserver sa neutralité vis-à-vis aussi bien des Macédoniens que des Étoliens, alliés des Romains depuis l'année 212. C'est ce qu'illustre un beau décret dégarnisère d'Éleusis pour un de leurs stratèges, Démainétos, Démainétos qui a mené plusieurs ambassades dès 218 au moment des négociations qui se font alors et qui devaient aboutir à la paix de Naupacte en 217, une paix d'assez courte durée d'ailleurs. Le document dit en effet que grâce à ses interventions auprès des deux principaux belligérants, étoliens et macédoniens, il a permis à la cité de retrouver sa prospérité d'antan, ten ex arches eudaimonian, laquelle était toujours bien présente en 209, date du décret. C'est donc dans cette ville, ayant renoué avec le bonheur, que visiblement Héracléides a séjourné quelque temps avec délices. Car s'il était arrivé seulement 10 ans plus tard, il aurait vu de nombreux bâtiments en ruine aux portes de la ville, notamment les gymnases, d'où les philosophes avaient dû fuir devant l'arrivée du roi Philippe V, et dont les beaux arbres, les pelouses, décrits par Héraclès, furent ravagés. Le bonheur des hommes ne dure décidément jamais bien longtemps. Je vous remercie.